7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
La question du jour, des petits commerces contraints de baisser le rideau. Des grandes surfaces qui ne peuvent vendre que des produits jugés essentiels. Mais qu'est-ce qu'un produit essentiel? Bonjour Vincent Chabot.
Bonjour Guillaume Erner.
Vous êtes sociologue, enseignant-chercheur à l'Université de Paris et vous avez notamment publié L'éloge du magasin aux éditions Gallimard. Alors c'est une question aujourd'hui sociologique, sinon métaphysique. Vincent Chabot, qu'est-ce qu'un produit de première nécessité?
Ah, alors ça peut être évidemment les médicaments, l'alimentaire, mais la réflexion sur l'essentialité des produits, qui n'est pas nouvelle, effectivement, elle est évidemment difficile à traiter. C'est-à-dire des produits essentiels qui le seront pour vous, ne le seront pas forcément pour moi. Et tout le débat aujourd'hui tourne justement sur la liste officielle des produits essentiels qui seront maintenus dans les grandes surfaces.
Oui, alors d'autant que l'on voit que ce n'est pas la même chose en Belgique et en France. En Belgique, les librairies demeurent ouvertes. En France, elles ont été fermées. Et tout cela semble évidemment bien arbitraire.
Oui, c'est arbitraire. Effectivement, selon les pays, selon les législations, moi je pars du principe que tous les produits, tous les commerces sont essentiels. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État finalement qui décide de l'essentialité d'un produit, mais c'est l'individu, c'est le consommateur. Le superflu pour certains sera essentiel pour les autres.
Bon, le déséquilibre en tout cas entre grandes surfaces et petits commerces, hélas, ne date pas du confinement.
Non. Non, bien sûr. Alors, évidemment, pour répondre à votre question, la fin des petits commerces, oui, si la fermeture perdure, le déclin du petit commerce risque de se poursuivre. Mais dans le débat actuel, je pense qu'il faut distinguer non pas forcément le petit du grand commerce, mais le commerce alimentaire, petit et grand, qui est ouvert, lui, vit par rapport au commerce spécialisé de toutes les tailles qui, lui, est fermé. Et finalement, le débat aujourd'hui est plus complexe qu'une opposition entre petits et gros, surtout, évidemment, que les pure players du e-commerce sont là, dont certains ont des pratiques fiscales et sociales contestées. Alors, avec cette fermeture, le gouvernement prévoit des liquidités, des exonérations de charges, on parle de 20 milliards, ce sera évidemment indispensable à tous les acteurs, mais insuffisant pour les plus fragiles, pour les plus modestes.
Et oui, d'autant que l'on était déjà dans une situation très largement déséquilibrée. C'est la raison pour laquelle vous aviez d'ailleurs rédigé une éloge du petit commerce.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, là, on est dans cette révolution commerciale. Hein. La dernière révolution commerciale, c'est l'apparition, l'essor du e-commerce depuis la fin des années 90. L'envol date du milieu des années 2000, avec évidemment Amazon qui fixe les règles du e-commerce. Aujourd'hui, avec le confinement, le premier comme le deuxième confinement, tout est mis en place finalement avec cette fermeture pour que la vente sans contact, incarnée par ces pure players et leur système de livraison, explose durant ce deuxième confinement pour le secteur non alimentaire. Alors, si j'en reviens au petit commerce, de mon point de vue, c'est une double peine qu'ils vivent en ce moment, puisque ils ont souffert du premier confinement, ils appliquent scrupuleusement le protocole sanitaire, aucun foyer de contamination n'a été observé en magasin, et puis ils se heurtent à cette fermeture autoritaire sans négociation de la part du gouvernement. Ils proposent notamment de généraliser et de massifier la vente sur rendez-vous, mais pour l'instant, c'est refusé par le gouvernement.
On a en tout cas la sensation que ce second confinement est plus difficile à accepter, moins bien toléré que le premier.
Oui, alors ce qu'on met en avant effectivement, c'est la numérisation des petits commerces, ce qu'ils appellent l'équité finalement, les encourager à se numériser, digitaliser ou mourir finalement. Mais la conception d'une offre de services numériques, c'est un peu la leçon du premier confinement, elle est indispensable aujourd'hui, mais il faut rappeler plusieurs choses. Le click and collect ne compense pas la perte des ventes socialisées. Également, elle nécessite des ressources et des compétences numériques inégalement distribuées parmi les commerçants. Là, encore une fois, les grands acteurs vont s'en sortir un peu mieux. Et puis, ça peut apparaître aussi chez certains comme en décalage avec leur projet professionnel, leur identité professionnelle. Un commerçant, c'est évidemment une valorisation à commerce, la relation sociale, plutôt que la préparation de commandes et de cartons.
Et est-ce que le petit commerce, justement, a pris suffisamment le tournant du e-commerce? Parce que on voit que certains petits commerçants s'en tirent parce qu'ils font du click and collect, d'autres n'ont pas les moyens de le faire, Vincent Chabot.
Non, effectivement, ça nécessite des moyens, des compétences numériques. Alors, les formations arrivent, bien entendu, mais on a quand même quelques initiatives, quelques dispositifs qui sont antérieurs à la crise du Covid. Je pense, par exemple, au portail des librairies indépendantes, Paris Librairie, chez Mon Libraire, du côté de Lyon.
Et puis, oui, alors ça, pour le coup, c'est fait. D'ailleurs, on peut le souligner. Il est possible pour de nombreux libraires d'acheter en ligne. Il y a un groupement de librairies qui fait cela, Librest, à l'échelle parisienne, mais c'est probablement possible aussi auprès de votre libraire local.
Bien sûr, et puis on peut toujours commander par téléphone ou par mail, c'est-à-dire que le e-commerce n'est pas seulement les plateformes, c'est aussi les moyens techniques de proximité, si j'ose dire, vis-à-vis des commerces de proximité. J'ajoute aussi qu'il y a l'émergence depuis quelques années de prestataires dans l'alimentaire, comme l'entreprise Épicerie, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement, malgré tout, qui s'est accéléré, bien entendu, avec la crise, de plateformisation du local, et je pense qu'une bonne consommation en ligne s'oriente dans cette direction.
Bon, il y a aussi de grandes plateformes de e-commerce qui ont proposé de mettre à la disposition des commerçants une partie de leur technologie ou bien de les héberger sur leur plateforme.
Oui, mais encore une fois, effectivement, ça nécessite de maîtriser les compétences et le référencement, etc. Tout ça n'est pas évident pour les commerçants.
Bon, est-ce que l'on peut imaginer, lorsque ce confinement cessera, parce qu'il va quand même cesser un jour, Vincent Chabot, est-ce que l'on peut imaginer que les petits commerces retrouvent leur place dans l'économie, l'écosystème des centres-villes, des villages ?
Ben oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même depuis quelques années, effectivement, les maires ont accueilli la grande distribution à bras ouverts hein, pendant 40 ans, mais depuis quelques années, certains maires, en tout cas, prennent conscience hein, de la déprise commerciale, de la dévitalisation du centre-ville et ont des moyens, des ressources pour justement redynamiser ces centres-villes, mais ça ne se fera pas sans également une prise de conscience des consommateurs. Le commerce soulève des enjeux publics, c'est une activité privée qui soulève des enjeux publics, et le citoyen doit aussi décrypter ces enjeux-là pour avant de faire ses choix, si j'ose dire.
Et pour ce qui concerne, cette fois-ci, les cafés, les restaurants, les bistrots, puisqu'il y avait une distinction à Paris entre ceux qui servaient uniquement à boire et ceux qui servaient à boire et à manger en province, en région aussi, mais la distinction était plus ténue parce que c'est principalement à Paris qu'il y a un mélange des genres parfois.
Oui, c'est-à-dire que c'est les brasseries qui ont pu effectivement, pendant quelques semaines, par rapport au restaurant rester ou au bar de nuit, rester ouvert. Effectivement, il y avait cette petite distinction-là.
Et si l'avenir est le commerce connecté, en revanche, Vincent Chabot, ça c'est un scénario qui fait un peu peur, est-ce que l'on peut imaginer, redouter que ce soit la fin des centres-villes, parce que c'était quand même cela qui caractérisait la ville-centre ?
Oui, c'est-à-dire que le commerce, effectivement, les grands magasins sont apparus au 19e siècle en accompagnant l'urbanisation, bien entendu. Alors aujourd'hui, il y a peut-être aussi, dans quelques années en tout cas, une déstabilisation des métropoles, un rejet symbolique des métropoles, au profit peut-être, c'est une hypothèse, des villes intermédiaires dans lesquelles le commerce de centre-ville va peut-être renaître et se redynamiser, on peut le souhaiter en tout cas.
Est-ce que l'on peut imaginer là aussi que le gouvernement modifie les règles de ce confinement assez rapidement ? Il y a donc cette date de 15 jours qui a été donnée. Vincent Chabot, qu'est-ce qui pourrait se passer d'ici là ?
Bon, j'en sais le travail des fédérations du commerce hein, actuelles, c'est-à-dire effectivement de raccourcir le délai de fermeture et de tout faire pour que le 12 novembre, finalement, toutes les formes de commerce, tous les commerces spécialisés alimentaires, évidemment, de toute taille, reprennent leur activité en respectant, bien entendu, scrupuleusement le protocole sanitaire.
Bon, en tout cas, on va voir ce qui est décidé à cet égard, mais c'est quelque chose de très suivi dans la presse aujourd'hui. Merci beaucoup, Vincent Chabot, d'avoir été avec nous.